Bienvenue dans cette nouvelle émission qui se nomme, en tout cas ce nouveau podcast qui se nomme En Flux Libre et qui est surtout l'émanation d'un projet à l'initiale qui s'appelle L'Écho des Gnous, qui est une émission qui est diffusée sur Radio Campus Lille et qui est animée par l'association Stinux, donc une émission sur le monde libre, sur Linux. Qui est un vaste monde, un monde un peu complexe parfois à comprendre, mais qui est certainement l'un des sujets les plus passionnants, puisque bon, une fois qu'on y rentre, on a du mal un peu à en sortir. Je remercie d'ailleurs Thomas, le secrétaire de l'association, qui a bien voulu mener avec moi une partie de ma réflexion sur le bien fondé d'un tel projet, et Dieu sait que je n'y croyais pas beaucoup au départ. Donc si vous nous écoutez, hein, les Ch'tinux, hein, n'hésitez pas pour faire un petit duplex en direct dans la Bretagne. Ça risque d'être un peu difficile parce que on a un tout petit peu beaucoup de problèmes pour enregistrer. Donc excusez-nous s'il y a des problèmes de son pour cette première. À mes côtés, pour m'accompagner, me reprendre dans mes paroles et surtout m'apporter un poids dans cette émission, je vous présente Alain, qui a eu la gentillesse et la volonté de croire mon projet et qui est devenu également le sien. En tout cas, j'espère qu'il le sent comme ça. Bonjour Alain.
Bonjour à tous. Alors déjà, Ghislain, je voulais dans un premier temps te remercier pour avoir lancé ce projet. Je pense que c'est vraiment une bonne initiative. J'espère que ça plaira aux auditeurs et qu'on ira loin comme ça et qu'on fera plein d'épisodes. On lance aujourd'hui donc ce podcast qui sera bi-hebdomadaire. Cette première émission, c'est un petit peu l'épisode pilote de la saison. On va en profiter pour mettre certaines choses au point. Il y aura sans doute des ajustements à faire dans les épisodes suivants. Donc ne nous en voulez pas trop pour ce premier épisode s'il n'est pas au top du top.
Et justement, je voulais reprendre ça avec toi, Alain. Je pense que voilà, on ouvrira un site web spécialement pour ce podcast. Donc vous pourrez déposer, je pense et je l'espère, vos commentaires. Puisqu'on a besoin, je pense, aussi d'avoir un peu de retour. Donc n'hésitez pas justement, dès que vous voyez l'émission en ligne, n'hésitez pas à déposer vos commentaires. Le tout sera activable. Pour l'instant, le podcast sera disponible sur le site internet. On est en train également de voir si ce podcast sera également disponible sur iTunes. Ça lui fera pas de mal, un peu de libre à ce petit logiciel. Mais bon, je n'en parlerai pas plus. Je pense que vous comprendrez, bien évidemment. La fréquence de ce podcast sera bi-hebdomadaire, donc et seront articulées autour de rubriques. Hein. On essaiera de respecter les rubriques le maximum possible. Mais bon, une actualité n'est jamais, on n'est jamais à l'abri d'avoir une grosse actualité au dernier moment.
Oui, puis on ne va pas parler que du libre. On va aussi parler de ce qui tourne autour du libre. Donc parfois des logiciels propriétaires qui peuvent impacter le libre ou des rachats de sociétés, des choses comme ça.
Voilà, tout à fait. Donc à ce sujet, on commencera par les news. C'est incontournable dans une telle émission parce que vous n'entendez peut-être pas souvent dans les médias le terme Linux ou le terme logiciel libre. Ou alors vous l'entendez mais de manière subconsciente. Souvent on entend dans les médias la vente liée par rapport aux ordinateurs. Voilà, c'est également lié au logiciel libre et au monde Linux, mais ça on aura le temps d'en reparler bien après. Donc les news, c'est incontournable, on peut pas y échapper, mais on essaiera quand même de vous faire ça bien tout de même. Donc des nouvelles importantes, hein, mais pas seulement, hein, dans tous les secteurs de l'informatique, dans tous les systèmes d'exploitation, du moment que ça a un tout petit trait à Linux ou au monde libre, on pourra faire aussi des extras, mais on essaiera quand même de garder notre ligne directrice. On enchaînera sur un focus. C'est un peu un dossier, mais bon, j'ai choisi le terme focus parce que voilà, c'est plus pour approfondir un sujet, avoir un zoom sur un sujet en particulier, en rapport avec des news, parce que ça nous traverse la tête, ou parce que ça nous paraît important de le signaler par rapport à une ancienne émission. Donc là aussi, hein, sur le focus, hein, si jamais vous avez des idées dans les commentaires, si jamais il y a quelque chose que vous voulez savoir et que vous voulez qu'on qu'en tout cas qu'on débat dessus, il n'y a pas de souci, vous nous déposerez un commentaire et on essaiera de voir ce qu'on fera. Une rubrique avec un beau néologisme de la part des Stinux. Merci beaucoup Stinux hein, pour ce néologisme. Ça s'appelle la dégicalisation. Toujours très dur à dire ce mot. Donc voilà, nous sommes un peu des geeks, c'est pour ça qu'on anime cette émission. On essaye toujours de comprendre nous-mêmes les termes, mais peut-être avez-vous besoin d'un éclairage. Eh bien écoutez, nous sommes là avec notre rubrique dégeekalisation. Nous sommes geeks, vous l'êtes pas, mais vous pouvez comprendre les mêmes choses que nous. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin d'avoir fait 7 ans de bidouillage en terminale. Pas la classe, hein, bien évidemment, le logiciel qui permet d'accéder en terminale sous Linux, mais je vous expliquerai tout ça bien après. Le site du jour, ça sera juste après, ça sera un peu pour sortir de sa fenêtre, Windows en anglais, hein. Je vais faire un petit jeu de mots, et aller voir le point de vue de d'autres personnes, hein. Ça sera souvent des blogs, puisque nous-mêmes nous sommes assez assidus hein, pour toujours voir les blogs et essayer de comprendre au maximum. Alors je signale juste que j'ai la fenêtre ouverte, c'est pour ça qu'on entend les motos au loin, donc désolé pour ces petits bruits. Le point DistroWatch, ça sera la rubrique suivante. Alors distrowatch.com, c'est un site qui regarde en quasi temps réel environ, en tout cas essaye de suivre toute l'évolution de quasi toutes les distributions Linux. Donc c'est une tâche qui est très ardue et très difficile.
Et leur popularité également.
Voilà, leur popularité. En sachant qu'aujourd'hui on compte environ 600 et quelques distributions Linux, 300 maintenues une seule fois par an et une centaine maintenues environ tous les 6 mois. Donc ça fait beaucoup de boulot, il y en a qui ont de l'intérêt, d'autres non. Il y a une distribution pour mémoire qui fait carrément le con puisque c'est une distribution qui installe tous les logiciels Linux disponibles. Et c'est un gros bordel, j'ai déjà tenté de l'approcher puisque quelqu'un avait fait le test et je peux vous dire que c'est juste très très rigolo. Donc Stinux, si vous nous écoutez, un petit test de cette distribution, peut-être que ça fera marrer les auditeurs. Et nous vous ferons donc un topo toutes les deux semaines de ce qui a marqué le monde de distribution, de ce qui va sortir, des versions majeures. Je regarde là vite fait, je pense que, en tout cas, nous vous parlerons d'Ubuntu qui va sortir à la fin du mois, de Fedora qui poursuit sa version 16, d'OpenSUSE, de FrugalAware, de Gnome, de KDE, bref, on vous parlera de tout ça, ça sera tout à l'heure dans le point DistroWatch. Et on terminera par les rendez-vous du libre sur Rennes, enfin quand il y en a, parce que là, en ce moment, c'est un peu le vide et la mort, puisque ça ne vous aura pas échappé. Nous sommes bretons, nous habitons à côté de Rennes, en tout cas pour ma part, j'habite à côté de Rennes. Mon ami collègue Alain, lui, habite sur Rennes directement, quelle chance. Il respire l'air nauséabond de la ville.
J'adore.
Voilà. J'espère pour toi que tu adores parce que. On va essayer aussi d'ouvrir un espace sur identi.ca. Donc pour celui qui ne saurait pas, identi.ca, c'est un peu le Twitter libre. Quoique. Nous aurons largement l'occasion d'en discuter justement d'identi.ca. Nous essaierons d'en ouvrir, en tout cas une instance. Nous verrons selon notre emploi du temps respectif. Donc avant de commencer, je crois que j'ai tout dit avant de commencer. Donc je vous avais dit que le flux sera peut-être récupérable sur iTunes. Et vous pouvez également nous retrouver tous les deux, Alain sur son blog, blog.aldevar.com. Je crois que je n'ai pas fait d'erreur.
C'est ça.
Le mien, redscape.aldevar.fr. Tous les deux sont accessibles via un premier portail qui s'appelle www.aldevar.fr. Comme ça, vous avez juste à cliquer sur une de nos deux icônes respectives. Sur le blog d'Alain, il y a pas mal de sujets sur les réseaux. Je vous invite vraiment à lire parce que c'est très complet. Sur mon blog, c'est un peu en stand-by.
Merci.
En ce moment. Mon blog est un peu en stand-by en ce moment. J'avoue que je travaille un peu sur le concept, donc je pense que ce sera plus à surveiller. Et je pense que j'ai tout dit. Maintenant, l'heure est venue pour moi de vous donner le sommaire. Mais c'est pas moi qui m'en charge, j'ai assez parlé, c'est Alain.
Donc, dans les news, aujourd'hui, nous allons vous parler de la Freebox. Son passage, donc sous licence GNU, en tout cas la publication des sources. On va parler également de failles de sécurité SSL, un petit peu de Windows 8 également et de son démarrage sécurisé. Donc, comme on vous avait dit auparavant, on ne parlera pas que exclusivement de livres, mais également de ce qui tourne autour du livre. Et aujourd'hui, ce sera le cas avec Windows 8 et le démarrage sécurisé. On va parler également de LibreOffice, d'Android et de ventes liées. Ensuite, le focus traitera pour ce premier épisode d'Ubuntu. Et dans la dédicalisation, pardon, nous débattrons sur la différence entre le logiciel libre et les logiciels open source. On terminera ensuite par le point DistroWatch et le site du jour qui est le Planète Libre. Et enfin, les rendez-vous du libre sur Rennes.
Juste à noter que justement pour les rendez-vous du libre sur Rennes, comme je crois l'avoir dit précédemment, parfois il peut ne pas y en avoir beaucoup. Là, ça sera juste pour un seul rendez-vous, mais on vous en parlera bien sûr un peu plus vers la fin de l'émission. Et on attaque donc tout de suite ces fameuses news présentées comme il se doit par Alain et moi-même. En premier, nous avons en tout cas retenu, en tout cas l'attention a été retenue sur Free et la publication il y a quelques semaines de ça de son code source en licence GNU. GPL, la distinction est importante. Et justement, il y a eu un petit conflit entre Free et la FSF, la Free Software Foundation France. Attention, c'est quelque chose d'assez sérieux. Une sorte de bataille qui a eu lieu donc entre eux deux. Et Free rentre enfin dans les clous en ce qui concerne cette bataille, sans que ça a été vraiment vraiment dit, puisque on l'a su vraiment par entrefilet, et ça a été assez tu comme sujet. Je pense que je vais laisser la parole à Alain qui va vous expliquer un tout petit peu plus ce qui s'est passé.
Alors, ce qui s'est passé, donc, justement, c'est que la Freebox utilise à l'intérieur, donc, pour son fonctionnement, des logiciels libres, et Free a toujours refusé de publier les sources de la Freebox parce que, pour eux, la Freebox est en location et donc ils n'ont pas besoin de publier les sources des logiciels. Donc, la FSF et Free se sont battus pendant un petit moment pour savoir s'il fallait ou non publier ces sources-là. Et Free a décidé donc récemment de publier les sources. Par contre, ce qui est un petit peu étrange là-dedans, c'est qu'il y a eu un accord donc, entre la FSF et Free, et cet accord n'a pas été dévoilé. Ce qui peut paraître assez étrange venant de la Free Software Foundation, qui normalement est censée être une fondation plutôt ouverte et
en tout cas qui défend le logiciel libre.
Tout à fait. Et donc l'accord qui a été signé entre eux n'a pas été dévoilé, mais en tout cas les sources ont été publiées. Donc voilà pour ça.
Il faut rappeler justement que Free a été assigné en justice en 2008 et que c'est une affaire qui dure en fait depuis 2004, et il semblerait, en tout cas d'après ce qu'on en sait, d'après ce qu'on en a su, normalement tout est rentré dans l'ordre. Et je vais juste préciser que ça portait sur en tout cas deux logiciels bien distincts, hein, IPTables et BusyBox, dont nous aurons l'occasion d'en reparler. Et pour eux, justement, pour la FSF, le Free violait tout simplement la licence, quoi, puisque Free a toujours dit qu'effectivement, ces logiciels à l'intérieur étaient des logiciels libres. Et voilà en quoi ce débat pouvait être gênant. Apparemment, tout serait rentré dans l'ordre. Peut-être affaire à suivre. En tout cas, elle a hérissé certainement les poils de nombreux défenseurs du logiciel libre et quelques sueurs froides quant à son utilisation. La news suivante.
La suite, tout à fait. Donc, une faille de sécurité dans SSL. Donc SSL, qu'est-ce que c'est ? C'est un système de certificat qui permet de se connecter de manière sécurisée à des sites
et de chiffrer les données de communication entre votre ordinateur et le site en question. Il y a deux chercheurs qui ont apparemment trouvé une faille de sécurité. En fait, cette faille de sécurité est connue depuis assez longtemps dans la version 1 de TLS.
Vas-y,
on continue d'enregistrer. Donc, ce qui s'est passé exactement, c'est que les deux chercheurs ont trouvé un moyen d'automatiser l'exploitation de cette faille SSL. Donc ils ont publié un petit logiciel qui s'appelle BIST qui permet d'exploiter automatiquement cette faille. Donc ce qui se passe maintenant, c'est que étant donné que la faille de sécurité a été corrigée dans la version 1.1 de TLS, tous les navigateurs et tous les sites web vont être plus ou moins dans l'obligation de passer sur cette nouvelle version 1.1. Enfin, c'est même pas une nouvelle version puisqu'elle existe depuis assez longtemps.
Depuis 2004 ou 2006.
Depuis 2006, oui, tout à fait. Mais que cette version 1.1 n'a jamais été implémentée, donc que ce soit Firefox, Chromium, Internet Explorer, Opera et compagnie, et tous les sites web tournent toujours sur TLS 1.0. Donc maintenant que cette faille a une façon assez simple d'être exploitée, il va falloir que tout le monde se bouge un petit peu pour corriger tout ça, et le problème, ça va être de savoir qui est-ce qui va faire le premier pas, les navigateurs ou bien les sites web.
Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette affaire, les journalistes, ou en tout cas les informations mises en ligne sur des sites d'informatique, hein, aussi nombreux qu'ils peuvent être sur l'Internet, on en fait des gros titres. Imaginez une faille dans le chiffrement SSL et des millions de sites HTTPS vulnérables. Alors juste pour info, HTTPS, c'est ce que vous pouvez voir sur votre navigateur quand par exemple vous achetez un article. Je ne sais pas, moi j'achète par exemple beaucoup de musique sur Internet, et par exemple voilà, quand il faut sécuriser évidemment les transactions, vous voyez apparaître un HTTPS et juste à côté le nom du site Internet. Vous cliquez dessus et en général vous avez le nom du certificat qui a bien authentifié le site. Il est forcé de constater que quand on vous dit une faille dans le chiffrement SSL et surtout des millions de sites HTTPS menacés, c'est certain que ça fait peur, très peur aux gens, puisque en général les HTTPS sont utilisés pour les transactions financières, et ça peut en tout cas donner une certaine psychose à tout ce beau petit monde. Mais rassurez-vous, cette faille n'a même pas été en fait vraiment découverte, elle a surtout été préannoncée. Ça a été connu, il paraîtrait que c'est connu en fait depuis un certain temps.
Mais le problème en fait, c'est que maintenant son exploitation peut être automatisée, ce qui n'était pas le cas avant.
Voilà, tout à fait. Donc, affaire à suivre, on vous en parlera si on en sait deux trois, si on sait deux trois informations sur ce sujet, on prendra soin de vous en parler juste après la prochaine news, les boots sécurisés et l'UEFI. Attention, là c'est un sujet assez sensible.
Assez
trollesque, j'ai envie de te dire, effectivement, puisque ce sujet, je pense que si l'on va chez nos confrères et amis de linuxfr.org, ça va beaucoup les intéresser, les petits loups. Qu'est-ce que c'est, tout simplement? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand vous installez un Windows sur votre ordinateur, ou parce que vous avez acheté un Windows, ou parce que vous avez acheté tout simplement un PC où il y avait un Windows de préinstallé à l'intérieur, il faut savoir que vous pouvez mettre un Linux, vous pouvez mettre 36 000 Linux sur votre ordinateur en double boot, en multi-boot, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Il y a quelques semaines de ça, Windows 8 a été annoncé officiellement. Il y a même une version de développement qui circule sur Internet de manière légale, je le précise, puisque vous pouvez le télécharger directement. Et donc, justement, cette version de Windows, donc la prochaine version qui s'appellera Windows 8, inclut un petit quelque chose qui n'est pas de l'avis et du goût de, justement, de tout le monde linuxien et du monde libre en général, c'est-à-dire qu'il interdirait, grâce à un petit quelque chose, il interdirait le fait de pouvoir mettre en dual boot un autre Linux. Ah, c'est très très grave, c'est-à-dire que n'importe qui achèterait un ordinateur, un PC sous Windows 8 en l'occurrence, ne sera plus capable d'aller regarder, enfin d'aller pouvoir mettre un Linux, ou alors il sera obligé de le faire en VirtualBox par
Ou
exemple.
même, il ne pourra même pas mettre dessus un Windows 7 ou un Windows XP.
Oui, voilà, oui, il n'y aura plus de, comment vous dire ça, d'interopérabilité. Il n'y aura plus de façon de découvrir Linux, parce que, on vous l'avoue, moi, Alain, et tous les gens qui peuvent nous entourer, et toute notre communauté, on a découvert Linux essentiellement par le fait qu'on l'a installé sur notre PC en multi-boot, en dual boot, par rapport à Windows, pour voir comment ça faisait. Moi-même, j'utilise toujours un Windows. J'ai pas mal de distributions Linux, hein, je tourne en multi-boot, et pour autant, c'est comme ça que ça m'a fait grandir, évoluer au sein de Linux, de comprendre ce système. Là, c'est carrément très très grave, puisque Microsoft s'appuierait sur carrément le BIOS, c'est-à-dire le cœur du système. Donc le BIOS, très rapidement, c'est un tout petit programme.
Là, ce sera plus le BIOS, hein, c'est
Oui, voilà, l'UEFI.
l'UEFI, les BIOS nouvelle génération, on
Voilà,
va
oui.
dire.
Et le BIOS, c'est en gros la petite étincelle qui va tout lancer dans le PC. Je pense que vous avez tous connu à une certaine époque votre tour quand vous l'allumez, un petit bip qui signalait qu'effectivement le BIOS avait chargé correctement les informations à l'entrée du PC, c'est-à-dire la présence de la carte mère, des mémoires RAM, du disque dur,
Des
voilà,
processeurs.
des
Disque dur,
processeurs.
pas forcément. C'est pas vérifié tout de suite, mais
Ouais.
processeur, carte
Disque dur,
mère.
peut-être après l'initialisation du
D'accord.
boot, hein, du BIOS, pardon. Donc voilà, c'est un tout petit programme qui est mis sur une toute petite puce. On peut même l'avoir sur la carte mère et qui est alimenté d'ailleurs par une pile, hein, ce qui fait dire souvent que quand la pile est morte, bah, le BIOS il peut pas forcément tout bien charger, quoique on peut quand même le faire fonctionner. Et justement, Microsoft ferait complètement disparaître ça, avoir un. Pour eux, en tout cas, leur argument, c'est un environnement sécurisé, ce qui est complètement idiot en soi, même si effectivement certains virus peuvent accéder au cœur même du système, donc au cœur même du BIOS, pour pouvoir activer à sa manière des choses, des choses et d'autres. Je ne rentrerai pas dans les détails. En tout cas, le problème, c'est que Microsoft aujourd'hui nie un peu ce genre de choses-là. D'ailleurs, je vais vous lire très rapidement un article qui a été paru sur le blog de Matthew Garrett. Alors, Matthew Garrett est développeur chez Red Hat. Red Hat est un on va dire des sponsors de Linux, hein, puisque il figure en bonne tête de liste pour le noyau Linux notamment. Et justement, il nous dit comme ça. Alors c'est une traduction de voilà, de Techno Addict. Voilà, c'est ça. C'est une traduction de Techno Addict, mais je cherchais en fait la personne responsable de la traduction. Je la retrouverai après. Voilà un peu ce qu'il dit. Alors, Microsoft a répondu aux interrogations qui suggèrent que Windows 8 rendra difficile le boot de systèmes d'exploitation alternatifs. Ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment ils ne contredisent quoi que ce soit ce que ce développeur dit. Telles que sont les choses, les systèmes certifiés Windows 8 rendront difficile, voire impossible, l'installation de systèmes d'exploitation alternatifs. Donc là, on cible vraiment Linux. Donc il explique, hein, un peu que la certification Windows 8 nécessitera que le matériel soit livré avec le mode de boot sécurisé de l'UEFI active, que la certification Windows 8 ne nécessite pas que l'utilisateur n'ait pas la possibilité de désactiver cette option. Donc justement, cette option n'est pas vraiment une option puisqu'on ne pourra même pas la désactiver.
Donc ça dépendra des constructeurs en
Oui,
fait.
voilà. Et nous.
Certains intégreront la possibilité de désactiver la vérification de l'intégrité en fait du système de démarrage. Et puis avec d'autres, on ne pourra pas sans doute désactiver ce système-là.
Voilà, tout à fait. Donc la certification, donc certains les fournisseurs de matériel ont été prévenus et certains systèmes n'ont pas cette possibilité, tout simplement. La certification exige aussi qu'elle ne nécessitera pas que le système embarqué n'ait d'autres clés que celles de Microsoft, encore plus grave, je pense. Et un système qui serait livré avec le mode de boot sécurisé de l'UEFI activé et qui n'embarquerait que les clés de signature de Microsoft ne pourra charger de manière sécurisée que, et le que est très important, les systèmes de Microsoft. Alors là, c'est carrément très dangereux puisque là, d'après son article, Microsoft bénéficie d'une position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation, ça on le sait tous, hein, dit de bureau. Et malgré l'énorme retour d'Apple au cours de la dernière décennie, leur part de marché ne dépasse pas les 5%. Linux est bien en dessous de ça et Microsoft détient facilement plus de 90% du marché. La concurrence dans ce secteur est rude, surtout depuis l'apparition de nouveaux modes comme les tablettes, les téléphones portables dits intelligents, les smartphones. Les fournisseurs, dès qu'il s'agit de concurrence, saisissent la moindre opportunité. Donc, il va de sans dire que c'est très dangereux pour nous, pour les gens qui installent des Linux, pour les gens qui veulent découvrir également les Linux. Ça touche même pas que nous. C'est vraiment bloquer les gens dans ce qu'ils veulent installer dans leur PC. Ça rejoint également le problème de la vente liée, interdite en Europe et en France. Ça rejoint énormément de problèmes. Je pense qu'on en fera soit un sujet très spécial, hein, où on invitera sans doute des gens qui auront travaillé dessus. On essaiera de vous expliquer ça de manière très, très, très détaillée. Parce que c'est très dangereux. On le signale. On essaye, en tout cas, il y a des gens qui commencent à se bouger parce que voilà, ils se disent que c'est très dangereux. Voilà, on vous tiendra au courant de toute façon. Mais voilà ce qu'il en est, en tout cas, les gens s'agitent. Du côté Linux, ça s'agite également. Du côté de Microsoft, c'est un peu motus et bouche cousue, c'est un peu le silence radio. Un peu ce qu'ils ont aussi d'habitude de faire, mais on peut bien comprendre qu'ils sont très occupés. Qu'ils sont très occupés avec leur Windows 8, on leur laisse à leur petit système d'exploitation. Les loulous. La prochaine news, eh bien Alain, c'est LibreOffice qui a enterré OpenOffice en l'espace d'une seule année. Et c'est un grand succès pour un tel logiciel.
Et ça fait maintenant à peu près un an que LibreOffice a vu le jour suite au rachat de Sun par Oracle. Donc Sun était le créateur et développeur principal d'OpenOffice, donc la suite bureautique libre. Suite donc au rachat de Sun par Oracle, Oracle a plus ou moins décidé de reprendre en main OpenOffice et laisser moins de liberté aux développeurs externes. Donc du coup, ces développeurs externes-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de reprendre le code d'OpenOffice, de renommer ça LibreOffice et de repartir sur leur propre branche de développement. Donc, alors ce qu'il y a eu de bien, c'est que la communauté de développeurs autour de LibreOffice a grandi très très vite. C'est pas moins de 250 développeurs qui ont rejoint le projet sur une année.
Ils ont levé quand même des fonds, quoi. Il y a eu une levée de fonds pour la Document Foundation, donc qui est la fondation qui est responsable de ce projet. Et ils ont quand même développé pas mal de fonds.
Et ce qu'il y a eu également, c'est que Oracle, du coup, ne s'en sortait pas trop avec son OpenOffice. Et ce qu'ils ont fait à la fin, c'est qu'ils ont fini par faire don d'OpenOffice à la fondation Apache.
Donc juste pour info, hein, pour info, la suite LibreOffice a été téléchargée tout de même 7,5 millions de fois depuis le lancement de sa version stable, donc en janvier dernier. Ce qu'ils ont fait, hein, ils ont simplement repris au tout départ, hein, la version 3.3 d'OpenOffice. Ils l'ont simplement renommé LibreOffice, donc il y a eu un gros nettoyage de code. Et ensuite, ils ont vraiment, véritablement lancé leur propre patte depuis LibreOffice 3.4. Je l'ai tous les jours, je l'utilise tous les jours, on l'utilise actuellement là, au moment où on vous parle. Et voilà, c'est juste une très très bonne suite bureautique. Bien entendu, hein, sur le site internet de l'émission, vous pourrez télécharger, si cela vous intéresse, LibreOffice, ou en tout cas, vous aurez le lien pour le télécharger.
Et puis, ce qui a fait ce succès aussi, c'est que la majorité des distributions qui utilisaient ou qui mettaient à disposition OpenOffice pour installation sont passées assez rapidement à LibreOffice, donc ce qui explique également l'explosion du nombre de téléchargements de cette version bureautique.
Voilà, tout à fait. La news, j'ai beaucoup de mal à le dire, suivante, notre ami Richard Stallman a dit donc celui-là, on voulait en parler dès la première, on s'est dit, allez, on inaugure la première avec lui, c'est Richard Stallman, n'est-ce pas les nos amis de chez HTNux hein, qui avaient fait une belle petite interview, qui ne comprenait pas beaucoup d'ailleurs les mots en français, ou en tout cas il avait un tout petit peu de mal, le pauvre. Alors Richard Stallman s'est exprimé sur Android, bon. Je pense que tout le monde connaît Android, c'est le grand challenger d'iOS, hein, de chez Apple, le grand challenger de par le fait que maintenant il commence à dépasser l'iPhone et son système d'exploitation iOS en termes de part de marché, que ce soit aux États-Unis et en Europe. Hein, il y a énormément d'appareils Android qui circulent dans le monde avec diverses versions. Donc ça a commencé par la 1.5, hein, Cupcake, et aujourd'hui on en est à la Gingerbread 2.3. La prochaine version Honeycomb, la 3, sortira normalement, je crois, fin de cette année, début de l'année prochaine. La version d'après, la Ice Cream Sandwich sortira, elle, un peu plus tard. Et se décidera d'ailleurs d'unifier tous les appareils dans un seul même bloc sur son seul système. Après, est-ce que ça sera une 3.1, une 4 ou une... Voilà, ça sera Google qui décidera. Et Richard, ayant donc Android, ce qu'il faut expliquer, qu'Android, c'est tout simplement un noyau Linux. Voilà, il n'y a pas plus bête, c'est la grosse entrée de Linux sur les marchés, en tout cas du smartphone. C'est une grosse entrée parce que Linux n'avait jamais beaucoup séduit par le smartphone. Et justement, Android, voilà, c'est ça, c'est un noyau. Hein, aujourd'hui, on est en 2.6.35. Hein, c'est tout simplement un noyau Linux avec des librairies ajustées au-dessus pour que ça en fasse un téléphone portable tout de même. Et justement, Richard Stallman s'est exprimé dans le Guardian, donc un très célèbre journal anglais. Et donc, il revient sur l'OS Android, donc qui a été développé par Google, dont certaines parties du code, pas tout le code, est en open source. Donc, il faut bien signaler qu'effectivement, Linux est peut-être libre, mais qu'après, comme c'est libre, vous pouvez faire ce que vous voulez de toutes les parties de son noyau. Selon Richard Stallman, cette exploitation mobile est-il libre ? Non, selon lui, justement, il n'est pas du tout libre, et que, par exemple, on peut noter que Google ne veut pas du tout publier le code source des versions, par exemple, pour tablettes, donc qui sont aujourd'hui l'Android 3 et 3.1, qui sont sous le nom de Honeycomb. Donc, ils ne sont ni libres, ni clairement ni libres, et ni même open source. Donc, c'est encore pire. Alors qu'en théorie, selon la théorie de Google, l'OS serait en grande partie libre. Alors tout ça, c'est un peu chinois, c'est un peu... Alors est-ce que c'est open source, c'est libre, c'est pas libre ? Mais selon lui, en abordant ces logiciels d'un point de vue de la liberté de l'utilisateur, il apparaît rapidement que de nombreuses fonctionnalités dépendent de logiciels sur lesquels l'utilisateur n'a aucun contrôle. Effectivement, par exemple, quand vous allez pour regarder vos mails sur Gmail, par exemple, tout passe par les serveurs de Google. Il y a aussi des drivers propriétaires qui n'autorisent aucune mise à jour de la part qui n'autorisent aucune mise à jour par rapport au constructeur, à moins effectivement de perdre des fonctionnalités comme le GPS, le micro pour parler, enfin bref, plein de petites choses. Et voilà, c'est pas tout à fait, on va dire, le modèle d'Apple, parce que Apple ferme toutes ses sources, hein, c'est un écosystème. Mais Richard Stallman modère un peu en reconnaissant tout de même que les téléphones Android d'aujourd'hui sont considérablement moins mauvais que ceux d'Apple ou de Windows. Ça nous rassure, merci Richard. En tout cas, on fera du point Richard Stallman toutes les émissions, puisqu'il a toujours quelque chose d'intéressant à dire, et notamment sur la mort de Steve Jobs. Bien ça, on en parlera un tout petit peu plus tard. Donc voilà ce qu'il avait à dire sur Android. C'était le point Richard Stallman. Et voilà, c'est la fin des news. On a eu un petit problème qui était coupé au montage, mais on a eu un petit bafouillement. Donc voilà. Bah écoutez, voilà, ce sont les news. Je précise qu'une partie des news, vous pouvez les retrouver sur la revue de presse de l'April. Hein, c'est april.org. C'est très important parce que c'est un très bon site pour en savoir un peu plus, hein. C'est une sélection d'articles, hein, du monde libre, de Linux, mais pas forcément, hein, ça peut être aussi d'autres choses. Et je signale donc les news ont été prises sur april.org, zdnet.fr.
Tous ces liens-là seront publiés sur le
voilà,
site.
Voilà, oui, tout à fait. Ouais, voilà. Voilà, tout à fait. J'ai pris également donc les sources sur le blog boardsmeyer.org.
Le blog de Stéphane Boardsmeyer.
Voilà.
Travaille à... Travaille bien, en tout cas.
Petit cafouillage. Technoaddict.fr, journaldunet.com, l'expresso.fr, pardon, et toutlinux.com. Voilà pour les news. Et bien, nous allons passer tout de suite, sans plus attendre, au focus. Le fameux focus qui est un zoom particulier sur un sujet. Et aujourd'hui, on va pas faire beaucoup plus compliqué. On va parler d'Ubuntu. Il faut savoir que Ubuntu, voilà, moi je pose souvent la question aux gens s'ils utilisent Linux ou pas, et Ubuntu est un sujet, enfin en tout cas est une distribution qui revient souvent devant ma question, s'ils connaissent déjà Linux et s'ils connaissent une distribution et ou utilisent l'une de celles-ci. En général, on me dit non mais vous savez le petit rond avec un symbole avec trois petits ronds à l'intérieur. Oui, je sais très bien qu'est-ce que c'est Ubuntu, tout simplement. Alors Ubuntu, tout le monde, je pense, vous qui nous écoutez, je pense sans doute la connaissez. Si vous la connaissez pas, c'est une distribution qui est dérivée à l'origine d'une Debian. Debian, c'est l'une des plus anciennes distributions GNU Linux qui peut exister, puisque je crois qu'elle a été créée en 1993, hein, de mémoire. Je crois qu'elle est aussi ancienne qu'une Slackware.
Oui, quasiment. Je crois que c'est autour de.
Je crois que c'était 1993.
Du
noyau en version publique, en tout cas. Et donc Ubuntu est soutenu comme à peu près toutes les grandes distributions grand public Linux par l'entreprise Canonical, donc qui est une entreprise sud-africaine qui a été créée par Mark Shuttleworth, qui est un millionnaire et accessoirement un ancien développeur sur Debian. Donc peut-être que je pense le choix de Debian vient de là. Ubuntu était, le mot était est très important, mais je vous expliquerai plus tard après. Ubuntu était l'exemple donc type de la distribution que pouvaient aussi bien aimer nous, en tout cas les geeks, ceux qui passent pas leur vie sur l'ordinateur, je vous rassure, mais en tout cas qui aiment bien passer du temps sur l'ordinateur, et que par les newbies, donc on allie la ligne de commande avec des interfaces graphiques, donc voilà quelque chose qui est accessible par à peu près pas mal de gens.
Moi, c'est vrai que c'était une des premières distributions
voilà,
vraiment clé en main et accessible.
Oui. Voilà, moi je n'ai pas honte de l'avouer que c'est par là que j'ai commencé et je continue toujours à l'utiliser, enfin plus ses dérivés en tout cas. Donc voilà, c'est une distribution qui est très souple. Mais son histoire, est aussi marquée par des évolutions techniques, éthiques, qui agitent régulièrement toutes les distributions GNU Linux. Donc le choix d'un DE, d'un desktop environment, donc tout simplement d'un environnement graphique, le choix de logiciel, le choix du noyau de départ, le choix, enfin bref, le choix que se posent en tout cas les développeurs quand ils développent une nouvelle distribution, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et sa dernière version, en tout cas stable, la 11.04, et son évolution, donc qui devrait sortir à la fin du mois, la 11.10, donc qui sortira fin de ce mois-ci, et en fait je suis en train de dire une connerie, qui sortira le 13 octobre, donc le 13 octobre c'est la semaine prochaine, je croyais qu'elle sortirait que fin octobre, mais en tout cas elle sort le 13 octobre. Et l'objet justement de vives critiques, hein, donc depuis cette version 11.04, puisqu'elle utilise une nouvelle interface, l'interface dite Unity.
Et son nom, tu es capable de nous dire son nom, la
1110 La 1110, oui, forcément je les connais toutes. Ubuntu fan, c'est Onéric Onslow.
Onéric Onslow.
Voilà, C'est un nom que je crois que ça veut dire quelque chose comme. Alors, je crois, Onslow, ça doit être un. Pas une baleine, mais une connerie comme ça. Enfin, bref, je vous rechercherai ça avant la fin de l'émission. Et donc, Unity est un mix. Donc, la 11.04, elle s'appelle Nati Narwhal. Ah non, voilà, le narwhal. Donc, le narwhal, c'est plus la baleine. Onirique Onslow, je vous recherche ça tout de suite. Unity est donc un mix entre GNOME 3. La toute nouvelle, le tout nouveau bureau sorti par GNOME, qui est aussi un peu bizarre, et le bureau de macOS X, ah oui, rien que ça, hein, puisque par exemple, quand vous avez toujours un fichier édition, affichage, outils sur toutes vos fenêtres, et eh bien là, c'est simplement en passant sa souris sur le rebord, donc sur le tableau de bord, que vous pouvez voir ce genre de menu. Et ce Unity est justement le gestionnaire de fenêtres maintenant d'Ubuntu, et carrément le DE d'origine d'Ubuntu. Évidemment, d'autres environnements de bureau sont disponibles sur Ubuntu. Elles sont même officiellement supportées par Canonical. Donc, on peut citer la plus célèbre Kubuntu, qui utilise KDE, le K Desktop Environment. XFCE pour Xubuntu, donc qui est un autre et qui est en version 4.8, le LXDE également pour l'Ubuntu, enfin bref, le nom est adaptable, mais jusqu'à présent, Ubuntu, la version principale, utilisait en fait la version 2.32 de GNOME, qui est une version qui est répandue un peu partout, hein. Linux Mint l'utilise, OpenSUSE également, voilà, mais ils ont fait ce choix technique justement d'imposer. Et c'est ça peut-être le plus grave, d'imposer l'interface Unity au lieu de faire un choix entre GNOME en version 2.32 ou même en version, pas forcément en version 3, puisque justement Unity en reprend certains aspects. Et c'est peut-être ça le plus grave, puisqu'il y a un choix d'imposition qui fait un peu grincer les dents des gens comme moi. Je pense à Alain, ça doit être un peu
Alors,
pareil.
j'ai jamais testé encore l'interface Unity, mais d'après les retours que je vois sur Internet, tout le monde n'est pas super content.
Voilà, oui, ouais, c'est assez. Moi, ça me fait voilà, grincer des dents, puisque justement, si je suis passé à Linux, si je suis passé au libre, c'est parce que j'ai envie de choisir ce que je veux d'installer sur mon PC. Et ça, malheureusement, Unity, et en tout cas Ubuntu dans les dernières versions, tendent sur autre chose. Donc, les nouveaux arrivants sont en général comblés, mais des gens qui utilisent une distribution GNU Linux depuis longtemps. Justement, font un peu la tête pour ces innovations, parce que bon, voilà, si je mets mon objectivité, ma subjectivité de côté, ça reste une innovation. Elles sont bonnes, elles sont pas bonnes, mais elles contribuent quand même à faire avancer d'un pas le monde libre. Ça, j'en suis pas forcément sûr par rapport à ce que j'ai dit précédemment, mais en tout cas, le monde de Linux vers une démocratisation. Donc Ubuntu constitue tout de même une excellente entrée vers le monde du libre et de Linux. Et son apprentissage est relativement simple, même s'il est nécessaire lorsqu'on aborde de toute façon un nouveau système d'exploitation. Il y a assez d'outils, voilà.
Faut un petit peu oublier ses réflexes Windows
Oui, tout à
versus Linux, c'est vrai que ça
fait.
ressemble quand même pas
Mais il y a quand même assez d'outils, c'est-à-dire que par exemple
mal.
l'installation, c'est user friendly. Bon, je vais
Mmh.
rapidement casser expliquer qu'est-ce que c'est tout simplement. Une interface où on vous explique tout. C'est très simple, c'est peut-être même plus simple que l'installation d'un Windows. C'est vraiment, voilà, c'est l'interface graphique qui est pensée pour l'utilisateur final. Mais malheureusement, à cause de Unity, Ubuntu a perdu quelques plumes dans l'affaire, puisque nombre de gens que je peux connaître, ou en tout cas sur Internet, ont migré, ou ont pu migrer vers soit Linux Mint, qui est une dérivée d'Ubuntu. Mais toujours lui en GNOME 2.32 dans sa version GNOME en tout cas. Donc qui est basé sur Ubuntu, hein, qui utilise des sources d'Ubuntu. Ou Linux Mint, ou Fedora, ou OpenSUSE. En tout cas, ça a profité vers d'autres personnes sur d'autres distributions disponibles. On fera d'ailleurs le point sur DistroWatch tout à l'heure, puisque j'en parlerai à nouveau d'Ubuntu. Donc c'est vrai que nous, par exemple, en tant qu'utilisateur de distribution Linux, moi j'ai commencé sur Ubuntu. Précédemment, j'avais essayé avec Mandrake, qui était une très ancienne distribution qui aujourd'hui a un peu disparu de nos écrans radar, bien qu'on peut la retrouver aujourd'hui sous le nom de Mageia, ou même Mandriva d'ailleurs, parce qu'elle existe toujours, hein, d'ailleurs. Elle a été mise à jour il n'y a pas très longtemps de ça. Voilà, j'utilisais Ubuntu. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que je l'ai installé pour certaines personnes qui trouvent que c'est très bien. Bon, c'est vrai que pour nous,
Oui,
ça
enfin,
reste. Pour
moi
un
c'est
débutant, ça
pareil.
reste très bien.
Si je dois proposer, si quelqu'un me ramène son PC tout bugué, tout plein de virus, qui ne fonctionne plus,
Avec un
pour des
Windows,
dossiers,
il fallait
voilà,
préciser.
évidemment avec un Windows.
Troll.
Si je dois lui proposer une réinstallation, évidemment je lui proposerai soit une Ubuntu, ou éventuellement une Linux
Oui,
Mint,
Linux
parce que
Mint,
c'est
oui.
vrai que j'aime bien cette distribution aussi, je trouve pas mal du tout. Donc je vais pas partir sur du Debian, sur du Arch Linux ou du Stackware. Donc on part sur des choses quand même assez simples
Voilà,
et
oui.
faciles d'accès
Et
surtout.
surtout, voilà, ouais, c'est ce que j'expliquais, user-friendly, c'est, voilà. Justement, l'installation d'une distribution GNU Linux, hein, que ce soit Ubuntu, Fedora, OpenSUSE, Arch Linux et autres, ça dépend aussi, enfin, en tout cas, moi, ça fonctionne comme ça peut dépendre d'une humeur. Je peux très bien tourner sur une Ubuntu 10.10 pendant une heure et puis vouloir réinstaller tout de suite une Arch Linux ou, tu vois, j'ai envie de tester une Fedora, voilà. C'est ça qui fait aussi la force des distributions GNU Linux, c'est un monde où on peut tester. On
Tout
peut
à fait.
choisir, on peut aller prendre ce qu'on veut n'importe où. Il y a des distributions qui peuvent nous convenir, d'autres non. Et ben c'est pareil,
Si ça
c'est
nous
comme
plaît
c'est
pas ou si
voilà.
ça nous plaît plus, on peut
On peut
changer.
changer, on peut changer. Voilà, il y a c'est pas pour autant que nos fichiers musicaux ne seront pas reconnus, qu'on peut pas lire de DVD. Voilà, sur toutes les distributions, les avancées techniques et technologiques dont profite le noyau Linux sont profitables sur toutes les distributions. Ce qui change essentiellement, c'est en général la philosophie, la distribution en elle-même, les paquets proposés, dans quel ordre ils sont mis, les packages. Bref, voilà, c'est ça qui change le plus. Même entre par exemple un Kubuntu, hein, et un Ubuntu, il y aura des différences liées essentiellement, il est vrai, au DE, donc au Desktop Environment. Mais. Voilà, en soi, ça reste quand même une seule et même distribution, mais juste pour bien saisir ce que je dis, par exemple sur Ubuntu, on utilisera le gestionnaire de package synaptique, et sous Ubuntu, ça sera kpackagekit, hein, que j'aurai l'occasion de vous en reparler. Bon, je vais essayer de pas trop lire dessus parce que ça, c'est encore un autre sujet. Donc voilà un peu pour Ubuntu. Donc pareil, vous retrouverez le lien pour télécharger Ubuntu pour vous faire votre idée sur enflux-libre.tuxfamily.org. Et nous allons passer maintenant à la dégicalisation. Alain, c'est à toi.
Alors, la
Dégicalisation. Et t'intéresses à bien le
bien
dire
dire
parce
parce
que,
qu'à
à
mon
mon
avis,
avis, nos amis de chez
ils vont pas être
Linux, ils
contents,
vont pas être du tout contents. En plus,
ils vont m'en vouloir, ils vont m'en
Non, mais
vouloir,
surtout, ils
surtout
vont
ils
me
vont
faire payer
faire
une
payer une
redevance et
redevance,
j'ai
j'ai
pas
pas
trop
trop
envie.
envie. Linux, je m'excuse.
Voilà,
Désolé, merci.
merci.
La dégicalisation,
Parfait.
donc, comme je vous l'ai annoncé dans le sommaire, on va voir un petit peu quelle est la différence entre logiciel libre et logiciel open source. Parce qu'il faut savoir que oui, il y a une différence, même si, comme ça, de prime abord, ça ne paraît pas évident. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que, à la base, logiciel libre, ça vient de l'anglais free software. Et cette remarque est assez importante pour la suite, puisque free en anglais, ça veut dire gratuit et ça veut dire libre également. Donc, au niveau des logiciels libres, le code source est disponible et surtout au niveau de la licence utilisée, donc à savoir en général la licence GNU/GPL, il y a ce qu'on appelle une viralité de la licence, c'est-à-dire que si j'utilise mon logiciel libre, si j'utilise pardon le code source de mon logiciel pour le modifier, pour rajouter des briques, je suis obligé de publier mes rajouts sous licence GNU/GPL également. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on parle de viralité, puisque du coup, si j'utilise les travaux de la communauté, je suis obligé, si je rajoute quelque chose, de reverser mes travaux à la communauté également. C'est un petit peu ce qui fait la force aussi de Linux et des logiciels libres en général, puisque comme ça, on a tout un écosystème de logiciels qui reste dans la communauté et que tout le monde peut utiliser gratuitement et modifier et tout ça. Donc, les quatre règles principales pour les logiciels libres,
sont premièrement le droit d'exécuter le logiciel, quel qu'en soit l'usage, ensuite le droit d'étudier son code source, le droit de redistribuer le logiciel et le droit de modifier le logiciel. Donc par exemple, là-dedans, il y a LibreOffice, il y a le noyau Linux, GNOME et KDE en font partie également, plus plein d'autres choses.
Firefox pour être le plus, peut-être le plus connu de tous.
Tout à fait, et VLC également.
Oui, aussi, qui est un formidable succès. Et même un autre exemple, XBMC, qui est un Media Center, mais qui était développé à l'origine, je crois, pour Microsoft. C'était un Media Center alternatif pour la Xbox 360 et qui est aujourd'hui publié sous licence GPL.
Eh bien, merci de me l'apprendre. Un logiciel open source, là, c'est pas tout à fait pareil. Pour être clair, la licence de type open source n'ont pas ce système de viralité comme les licences BSD par exemple ou les licences Apache. Le code source est disponible toujours, mais si quelqu'un prend ce code source et procède à des modifications, il n'est pas obligé de redistribuer les modifications qu'il a faites. Donc par exemple, des logiciels sous licence open source, on a le logiciel Apache, donc le fameux serveur web utilisé sur la grande majorité des serveurs web internationaux. MySQL pour les bases de données, PostgreSQL également pour les bases de données, et OpenOffice. Donc on a cité LibreOffice tout à l'heure dans les logiciels libres, et OpenOffice dans les logiciels open source.
Et aussi, quelque part, Chromium, puisque Chrome est une version, enfin est basée sur Chromium, mais que Google, en tous les cas, n'a pas d'obligation de publier sous licence libre les rajouts qu'il peut faire, c'est-à-dire...
Alors, il me semble que Chromium, c'est la version libre, et Chrome, c'est la version Google qui n'est pas 100% libre. Il me semble que c'est ça.
Oui, il me semble...
On va vérifier.
On ira vérifier tout ça.
alors donc, le terme logiciel libre a une plus grande popularité dans les pays francophones puisqu'il est beaucoup plus simple à assimiler que dans les pays anglophones où là-bas, il y a plus l'ambiguïté de libre et gratuit. Et du coup, donc free software, ça fait un petit peu peur aux entreprises, souvent, qui ont peur que si elles utilisent du code, d'être obligées forcément de le redistribuer. Donc le mouvement open source, lui, pense que s'ils font passer au second plan cette idée d'éthique et de liberté qui font un petit peu peur aux entreprises, il faut le dire, ces entreprises-là seront plus enclines à utiliser des logiciels dont le code source est disponible. Donc, ce que le mouvement open source fait, c'est qu'ils mettent en avant le côté pratique du logiciel open source, c'est-à-dire que une entreprise va pouvoir partir d'une base développée par une communauté, procéder à des modifications et revendre ses améliorations à d'autres entreprises ou éventuellement à des utilisateurs. Qu'est-ce que je pourrais rajouter là-dessus ? Donc voilà pour la différence principale entre logiciel libre et logiciel open source. Donc c'est vrai que en fait le logiciel libre c'est quelque chose qui est plus avantageux pour l'utilisateur et les logiciels et les licences open source sont elles plus avantageuses pour les entreprises. Voilà pour moi.
D'accord. J'attendais une chute, mais apparemment elle n'était pas là.
Non, j'ai pas de chute, moi. Et j'ai pas de comment.
De feeling.
Non, de transition.
D'accord. Bon, transition. Bah, c'est moi qui ferai la transition alors. eh bien, merci Alain pour la dégeekalisation. En tout cas, tous vos retours seront les bienvenus, en espérant vous avoir bien expliqué quelles étaient les différences entre logiciels libres et open source. Sinon, bien évidemment, Alain se fera un plaisir de vous la réexpliquer. nous continuons le fil de cette émission. On s'endort pas. J'espère j'espère que tout va bien pour vous, encore une fois. Nous, ça nous fait déjà plus de 50, quasi 50 minutes que nous sommes à l'antenne. Donc, je peux vous dire que c'est un peu dur, mais c'est bon. On se manage.
Pour une première, ça ira mieux.
Pour une première, voilà, on va fumer une petite cigarette après et puis ça ira bien. Le site du jour, c'est la rubrique, voilà, pour vous faire découvrir un peu ce qui se passe ailleurs sur le web que sur les sites et surtout sur les sites que nous fréquentons, que nous aimons bien fréquenter. Justement, nous allons vous parler d'un site que moi je ne connaissais pas, mais que Alain connaissait très bien, et qui s'appelle Planète Libre. Planète sans E et sans accent de surcroît. Donc, très simplement, avant que j'aborde Planète Libre, qu'est-ce que Planète Libre ? Donc, comme ça, libre, on est bien d'accord, vous savez qu'est-ce que c'est maintenant. Un planète, qu'est-ce que c'est ? C'est un site web qui agrège en fait des flux, tout simplement, de billets, des articles qui peuvent être publiés sur divers blogs, mais qui ont un trait, en tout cas, à une seule et même, ça peut être passion, sujet, voilà. Là, c'est sur le libre. C'est un peu, voilà, un mix. C'est aussi, quelque part, une forme de micro-blogging, quoique, bon, ça serait peut-être un tout petit peu exagéré de dire ça, puisque voilà, ce sont quand même des articles. Toujours est-il que donc sur ce Planète Libre, dont l'adresse est la suivante, hein, planète-libre.org, eh bien, quand vous arrivez sur la page, vous avez tout d'abord un accès rapide donc aux articles qui sont publiés. Et donc vous avez toute une série d'articles sur le libre. Là, par exemple, à l'heure où on enregistre l'émission, on peut voir pêle-mêle « C'est quoi Diaspora ?», dont on parlera, je pense, dans les prochaines émissions. La pile de graphique de Linux démystifiée, Python 2.7 par défaut dans Debian SID. Tiens. Ils font des efforts à Debian. Promouvoir le web ouvert a bien changé, mais Mozilla est toujours là, donc pour parler de Firefox. Bref, voilà, tout un ensemble de flux, enfin en tout cas de billets publiés tous les jours.
Hein, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment donc l'avantage, jours, c'est que ça permet vraiment de centraliser tout un tas d'informations sur un sujet, voilà. Plutôt que d'aller visiter un par un 10, 15, 20 blogs. Voilà. Là, si ces blogs ont fait l'effort de s'inscrire sur ce site-là, le Planète Libre, donc on va pouvoir retrouver tous les articles qui parlent du libre dans une seule interface, et il faut avouer que c'est quand même assez pratique.
C'est très pratique, c'est un peu, on va dire, l'équivalent d'un flux RSS, sauf que là c'est condensé sur un seul et même site, mais bon, bien évidemment, c'est uniquement sur un seul sujet. Bon, c'est le sujet qui nous intéresse, ça tombe bien. C'est le libre. Donc, il y en a pour tous les goûts. Hein. Il y en a pour le noyau, il y en a pour des distributions. Alors, la distribution qui revient très souvent sur ce libre, sur ce planète, justement, c'est Arch Linux. Hein. Arch Linux, ouais, c'est très, très présent.
Frugalware également.
Ouais, Frugalware. On en voit un tout petit peu moins d'Ubuntu, mais en général, voilà.
Il y a un planète dédié à Ubuntu.
Ouais, oui, exactement. Oui. Je ne sais pas s'il est toujours, en tout cas, actif, mais effectivement, ouais, il y a un planète qui est accessible directement sur le site internet de la communauté francophone d'Ubuntu, qui est ubuntu-fr.org pour au passage. Et donc il y a, voilà, pas mal de d'articles sur Python, sur par exemple Salix, sur des DE, donc des desktop environment, sur Frugal, sur Diaspora, sur, voilà, il y a pas mal de sujets. C'est très intéressant, c'est très complet, c'est parfois très technique, voire très complexe. Mais en général, une fois l'article bien lu, on peut comprendre largement tout ce qu'ils nous disent. Et voilà, même devant moi, j'ai carrément quelqu'un qui a publié une astuce pour un lanceur force acquitté dans le doc d'Unity d'Ubuntu. Donc, comme quoi, tout le monde se rassemble sur Planète Libre. Voilà, comme le dit Alain, tant qu'on fait l'effort d'inscrire son blog sur ce planète, il n'y a pas de souci, on aura toutes les infos. C'est pas forcément, je pense que voilà, c'est pas forcément non plus des actualités, parce que voilà, certaines choses sont assez anciennes, d'autres un peu plus récentes. Je vois par exemple installer le SDK Android sur GNU Linux, qui est quand même quelque chose d'assez lointain. Hein. Ça fait depuis la première version 1.5 hein, qu'on peut installer un SDK Android sur un environnement de développement.
Disons que ça permet les blogueurs publient aussi des tutoriaux pour faire certaines manipulations. Certains sont là pour donner leur avis aussi, par exemple. C'est pas que de la news ou la dernière distribution qui vient de sortir.
Oui, voilà,
chose
oui.
Comme ça. Il y a vraiment un petit peu de tout.
Voilà. Il s'efforce voilà, de toujours avoir. Il faut que le contenu, en tout cas, dans, par exemple, quand on lit la charte du site, il faut que voilà, ce site, il faut que le blog apporte quelque chose de constructif. En général, on sait très bien que bon, bah, tout le temps, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus constructif si c'est juste pour dire que Fedora ou Arch Linux a publié un nouveau lanceur de. Voilà, c'est intéressant, sûr et certain, pour tout le monde. Ça permet de se mettre au courant, mais c'est pas le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, ça sera plus de dire que voilà, j'ai trouvé une astuce pour faire tel truc, j'ai trouvé une autre astuce pour installer telle chose. Je vais vous expliquer qu'est-ce que est MySQL Cluster par exemple. Je vois un article hein, qui vous ouais. explique le concept de base. Il y a apparemment il y a cinq articles puisqu'il en est aux deux sur cinq. Donc voilà, c'est. Mais surtout, ça permet, quand vous cliquez sur l'article, d'aller sur le blog original et ensuite de lire le blog. Donc c'est vraiment. C'est compliqué. C'est très fouillu. Si c'est fouillu. Alors attention, là, c'est un néologisme que je viens d'utiliser. Un fouillu n'existe pas. C'est pas fouillu. C'est très fouillu. Hein, parce qu'apparemment j'aime bien ce mot-là.
C'est très fourni.
Voilà, c'est très fourni. Merci Alain. Je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Mais bon, on va dire que vous pouvez ensuite aller sur le blog, poster le commentaire sur le blog original et surtout lire le blog. C'est-à-dire vraiment aller au fond des choses. Par exemple, la personne en question peut très bien avoir d'autres astuces à vous proposer sur ce blog, d'autres cours, d'autres choses, d'autres infos que vous auriez un peu
d'autres, ou d'autres contenus aussi.
Voilà, oui, aussi
pas forcément
contenus,
en rapport avec
oui.
le livre.
Tout à fait, oui.
C'est pas parce qu'on a inscrit son blog sur le Planète Livre que tout ce qu'on va publier sur son blog
voilà.
apparaîtra sur le Planète Libre.
Ouais,
il y a vraiment une charte
à respecter.
Assez
stricte hein,
strict ouais. à respecter, c'est-à-dire que les articles doivent vraiment avoir
un rapport
très proche avec le livre. Donc ça marche par un système de tags. Vous mettez un tag ou une catégorie Planète Libre quand vous rédigez un article. Et à ce moment-là, l'article sera publié sur le Planète Libre.
Voilà,
mais ça n'empêche pas de publier d'autres articles qui ne parlent pas forcément de libre, qui peuvent parler d'informatique mais pas libre, qui peuvent parler de musique ou de cinéma ou de tout ce qu'on veut, autre chose. Le fait d'aller visiter ces blogs, eh ben, ça permet de voir quelques avis, de parfois découvrir certaines choses. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller.
Voilà, on vous invite, évidemment, le lien sera disponible sur le site de l'émission. On vous invite évidemment à aller et c'est une formidable, en tout cas, source d'informations sur entièrement le libre. Donc, voilà.
Et vous avez également une possibilité de voter pour les articles. Donc en cliquant sur un petit cœur, vous donnez votre vote à l'article.
Non, c'est pas un like de Facebook, hein, je
non,
précise.
Non, ce n'est pas un like, ce n'est pas un plus 1.
Ce n'est pas un plus 1 non plus, ce n'est pas un petit tweet, ce n'est rien du tout ça, c'est un petit cœur. C'est plus mignon, c'est plus joli. Hein.
Et vous avez accès ensuite à un top 10 des articles les plus appréciés par les lecteurs du Planète Libre. Donc, qui peuvent vous permettre de voir les articles les plus intéressants de la dernière semaine.
Et justement, si ça vous intéresse, on essaiera d'avoir les gens qui font ce Planète Libre, les mainteneurs, on essaiera de les avoir.
Sébastien Bilbao notamment.
Voilà, et bien on essaiera de les avoir sur.
Je crois qu'ils n'habitent pas très loin.
C'est parfait. S'ils pouvaient tous venir, ça serait parfait. En tout cas, pour parler eux-mêmes de leur Planète Libre, parce que voilà, beaucoup de gens y passent et ça serait très intéressant si les gens qui le font viennent en parler eux-mêmes.
Et vous pouvez du coup également créer vous-même votre planète,
oui,
puisque le Planète Libre utilise un moteur de planète qui s'appelle Bilbao Planet, qui est libre du coup, et vous pouvez télécharger le Bilbao Planet, le mettre en place sur votre hébergement et créer vous-même votre propre planète.
Si bien entendu vous avez un hébergement. Sinon, ça ne marchera pas beaucoup. c'est utile de le dire.
Ah oui, c'est mieux.
Planète-libre.org, c'est son nom. C'est le site internet de la semaine, en tout cas le site du jour. Et on vous invite grandement à y aller. Attention, maintenant, on passe à de l'exceptionnel. On passe sur le point DistroWatch. Non, non, je ne vous ferai pas un top 5 de la distribution du jour. Et en numéro 5, alors, comme j'ai pu le faire hier en
number
déconnant.
Number
5, The Arkinux Distribution Show. Parce que je peux très bien faire, vous faire un show à l'américaine. And now, this is distribution.
Oui, ça, on sait faire aussi.
Top distribution. Je ne vous ferai pas ce plaisir là, puisque c'est assez. J'ai ma voix, je vais finir par la perdre si ça continue. En tout cas, le point DistroWatch, eh bien, toutes les deux semaines, on vous fait un petit point sur ce qui sort, sur les petites curiosités, les petits amusements. D'ailleurs, j'en ai une belle là après. Là, je pense que c'est bien vous marrer.
Attention, restez jusqu'à la fin.
Ah ouais, là, restez jusqu'à la fin parce qu'à mon avis, celle-là, je pense que je l'ai jamais vue, mais à mon avis, je l'installerai même parce que elle est franchement pas mal. Tout ce qu'on peut dire, c'est que par exemple, donc dans le Distro Watch de ce dimanche 9 octobre 2011, nous avons dans les 10 premières places et à la 10e place Mandriva. D'ailleurs, je vous en parlais tout à l'heure, hein, Mandriva. Qui était donc anciennement appelé Mandrake. Donc Mandriva est à la 10e place, hein, se maintient quand même parce que je crois que l'année dernière elle était encore dans les top 5 et bon bah finalement elle a fini par dériver dans le classement. Il y a eu beaucoup
doucement ça descend. Ouais.
Voilà, il y a eu beaucoup de démêlés par rapport à Mandriva, hein. Il y a même eu un fork, hein, qui le talonne de très près parce qu'elle est 12e et elle s'appelle Mageia. Mm-hmm. Mandriva, on vous en parlera dans les prochaines émissions également, hein, puisque c'est un sujet assez sensible, je pense que j'en ferai ou Alain en fera un focus. En 9e position, on a Pupi Linux. Ah, celui-là est pas mal aussi, hein, je l'ai testé. Pupi Linux, hein, c'est une très petite distribution qui tient sur 130 et quelques mégas. C'est vraiment très petit et ça a l'avantage de pouvoir être tourné sur des PC d'ancienne génération, du style Windows XP, qui ne peuvent ni supporter ni GNOME, ni KDE, ni XFCE. Je crois que c'était du LXDE, je crois même le DE d'origine. Donc voilà. CentOS, peut-être que tu pourras en parler un peu plus parce que je la connais pas beaucoup. Hein.
CentOS, c'est la version libre de Red Hat en fait.
Voilà.
Donc,
voilà.
Ce qui permet.
Utilisé en entreprise, hein, Red Hat Enterprise.
Très utilisé en entreprise, ouais, ouais. Mais on utilise énormément ça au boulot. Ouais. Donc CentOS, c'est la version où vous n'êtes pas obligé de payer pour du support. Pour acquérir la distribution, donc
c'est du Fedora à l'origine. Enfin, c'est en tout cas, c'est du
non, même pas.
C'est basé sur du Red Hat.
Voilà, c'est à dire que Fedora c'est la version un petit peu
communautaire libre
de Red Hat et CentOS c'est la version vraiment libre à 100% de Red Hat. Donc, vous pouvez la télécharger librement et l'installer, et vous aurez quelque chose qui ressemble énormément à Red Hat pour pouvoir bricoler sur votre PC, par exemple.
Voilà, tout à fait. En 7e position, nous avons PC Linux OS, hein, qui connaît toujours un grand succès. Hein. J'ai toujours vu, en tout cas, cette distribution, mais je ne l'ai jamais approché. Non, je ne l'ai jamais approché non plus, et c'est quelque chose quand même qu'on retrouve très souvent dans le top 10 en tout cas. En 6e position, l'autre grosse distribution OpenSUSE, qui est à l'origine, en tout cas qui est soutenue et sponsorisée par Novell, qui est allemand, qui est une entreprise allemande. L'appareil, c'est comme Red Hat.
Novell,
ouais. C'est pas Oracle,
non, Novell.
Ah, si, Novell, ça existe toujours. Oh,
non,
oh, attends. Ah si,
Novell,
attends.
Plus.
Ah si,
Novell, c'est racheté. Ça existe encore autant pour moi.
Et Novell c'est toujours là. Hein.
Ah ouais, mais ils ont des accords avec Microsoft et tout ça.
Ouais. Ah oui, bon, mais ça leur a pas.
Autant pour moi.
Ouais, si, ouais. Bon, ouais. De logiciel d'infrastructure. Ouais.
OpenSUSE, ouais.
Voilà, c'est ça, ouais. Tu vois. Si, ça fait peur.
Désolé.
Donc Novell qui est donc le sponsor principal de cette distribution, donc OpenSUSE. Bonne distribution, moi j'ai eu plusieurs fois l'occasion de tester, c'est pas ma préférée, mais on va dire que c'est une très très bonne, bonne distribution pour celui qui veut découvrir, hein, comme Ubuntu, tout ce qui est le cercle fermé des distributions, donc nous, Linux, en cinquième position.
Distribution clé en main également.
Oui, voilà, oui, très user-friendly dès le départ, quoique son interface d'installation est un peu ancienne par
moi,
rapport
personnellement,
à
j'aime pas trop, mais
Le vert, ça m'a toujours rendu un peu malade.
Voilà.
Arch Linux. Ah.
Alors moi je dis Arch Linux.
Et moi je dis Arch.
D'accord.
Pour pas changer, je dis Arch. Je vais pas changer. At- Attention, le petit micro qui tombe.
Non, il n'est pas tombé.
Ouais, ça va. Vous avez dû entendre un petit bleu. Arch Linux. Ah, que dire. Alors, Arch Linux, on les voyait peut-être plus dans les derniers. Enfin, plus entre la 10, 15, voire 20e place il y a quelques années de ça. Et c'est un truc qui monte en flèche. C'est que de plus en plus de gens. Qui, une fois qu'ils ont été aguerris à Ubuntu, OpenSUSE, Fedora, Mint et ce genre de choses-là, eh bien, se posent la question, est-ce que ça sera une Debian ou est-ce que ça sera une Arc ? Oh tiens, je vais essayer Arc. Ils essayent Arc, ils découvrent une distribution fiable, souple, rolling release, c'est-à-dire qu'on ne l'installe pas tous les 6 mois, merci Ubuntu, surtout qui respecte une philosophie qui est très différente des autres distributions Linux. C'est une philosophie KISS, keep it
simple, stupid.
Voilà.
Garder le principe, c'est de faire des choses simplement.
Voilà, tout simplement. L'installation, alors là, pour le coup, n'est pas user-friendly, mais alors pas du tout, parce que ça se passe en ligne de commande. Enfin, si, il y a eu un nouveau framework de l'installateur, hein. il y a quand même un petit effort de fait. Enfin, l'installateur reste en anglais. Il faut savoir franciser le clavier au départ. Mm-hmm. Je sais que, par exemple, pour l'installer sur mon PC, je suis même obligé de charger moi-même mes modules, par exemple, pour l'Ethernet. C'est assez compliqué quand on ne sait pas trop à quoi on touche. J'ai quand même mis 4 fois avant de l'installer. Hein. Je pense que pas
ça
mal.
Ça me rappelle l'installation de ma toute première distribution. J'avais fait un petit peu la tête brûlée. Je m'étais lancé dans une installation de Gentoo, la distribution à compiler et à faire soi-même avec ses mains. Ça m'a juste pris 2 semaines. Mais une fois que j'avais terminé, j'avais appris plein de choses.
Voilà, oui. Et puis après, derrière, tout de suite, quand on va sur des systèmes un peu plus populaires, ça va tout de suite mieux.
C'est beaucoup plus facile, voilà.
Mmh. Donc Arc, c'est ça. Arc, par exemple, pour vous donner une idée, hein, une fois que vous avez configuré vos disques durs, votre réseau, les packages installés, ça tient en 12 douzaine de fichiers de configuration, hein, dont rc.conf. Et puis surtout, pour installer les packages, un outil très performant, Pac-Man. Non.
Génial.
Pac-Man, on va résumer qu'est-ce que c'est. C'est pas le petit bonhomme qui fait papapap. Quoique, en fait, il y a un petit script, effectivement, qu'on peut rajouter dans pacman.conf, un petit script justement pour.
Ce qui fait que quand il télécharge les fichiers,
il y a effectivement un Pac-Man.
C'est un petit Pac-Man qui croque les petits points.
Voilà, tout à fait.
La barre de téléchargement.
Désolé, ça, ce sont des trucs de geek. on s'amuse avec n'importe quoi. Voilà, nous, ça nous fend la gueule de savoir qu'il y a un petit machin qui croque.
C'est génial
pour nous.
De l'ordre du génie.
Voilà. Donc Pac-Man, c'est ça. Pac-Man, c'est un formidable gestionnaire. Ça se passe en ligne de commande, mais c'est presque même trop simple par rapport à Ubuntu. C'est ça le pire, c'est que en l'écrivant, c'est toujours mieux parce que en faisant Pac-Man-SYU, vous téléchargez la mise à jour pour votre système et vous êtes tranquille après. Voilà.
Bon,
après. Après, évidemment, ça ne vous empêche pas de le faire une fois par semaine, deux fois par semaine, à la fréquence que vous voulez. Mais c'est génial pour ça. C'est un outil très fiable. Il y a également Yaourt qui permet d'accéder au paquet AUR. Oui. Et les paquets AUR, ça, on en parlera. On parlera de toute façon de Arc.
De toute façon,
on fera un focus sur Arc parce que Arch Linux, c'est... pas y arriver à le dire. Parce que Arch Linux, c'est vraiment notre distribution coup de cœur.
J'adore. J'utilise depuis 2006. Et j'arrive pas à m'en passer sur mon PC de bureau, c'est vraiment.
Et pareil, les gens de Linux utilisent, je crois, en partie, je crois que Thomas m'avait dit un jour qu'il utilisait également Arc, donc je crois qu'il utilise d'ailleurs toujours Arc. Et voilà, on vous en parlera de toute façon, et c'est aujourd'hui en 5e place. En 4e, nous avons le grand Debian. Alors, le Debian, le pauvre, il a un peu été. Il a été un peu saccagé parce qu'il y a eu des problèmes concernant ses logiciels. Alors il se disait libre, mais la FSF, la fameuse Free Software Foundation, disait qu'il n'était pas libre. Richard Stallman en a rajouté un peu dessus. Donc Debian, contre vents et marées, reste quand même la distribution qui reste dans un top 5. Hein, Debian est en 4e et Debian, ça reste Debian. C'est-à-dire que si vous voulez avoir des logiciels solide, à l'état, vraiment stable de chez stable, Allez chez Debian, par contre, si vous voulez mettre votre système à jour, n'allez pas chez eux. Parce que malheureusement, Debian, c'est à moins d'activer les dépôts seed, testing, testing et seed, hein, il me semble. Oui, voilà, c'est ça, seed et testing. Voilà, vous ne pourrez pas faire grand-chose de plus que d'admirer votre beau Firefox 3.6. Oups, pardon, je crois qu'ils sont partis en 4, il me semble. Désolé pour les débianeux qui seraient derrière les oreilles. Je crois que j'en ai choqué 2 ou 3. Donc voilà.
N'hésitez pas à nous corriger.
Oui, n'hésitez pas à nous corriger parce que parfois je peux lancer des tout petits pics et c'est invisible. Mais je peux vous assurer qu'après, vous en avez pour votre compte. Mais bon, là n'est pas la question. J'ai utilisé très souvent une Debian. J'ai très souvent installé des Debian et tourné dessus. Franchement. Pour ceux qui recherchent vraiment un système très stable qui ne crachera jamais, Debian. En 2 mois d'utilisation, j'ai pas eu un seul bug. Voilà. C'est pour vous dire, c'est à l'épreuve du feu. Bon, malheureusement, il faut se contenter des logiciels en version stable, voire même stable racine sous les pieds. Donc, je peux vous dire que c'est un tout petit peu frustrant sur la fin, mais on va dire qu'au début, pour découvrir une grosse distribution qui serait un peu plus difficile, parce que là, effectivement, il y a une installation graphique, mais qui n'est pas forcément très user-friendly pour moi. Donc voilà, on va dire que Debian, c'est une bonne marche en avant vers Arc. D'ailleurs, avant Arc, j'ai essayé une Debian et c'est comme ça que je suis venu sur des distributions un peu plus compliquées. Hein. D'ailleurs, les prochaines distributions qui me restent installées avant mon étape ultime et ma qualification Super Geek, c'est Gentoo et Frugal. J'espère que mon cher Alain pourra m'aider parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. En troisième position, on retrouve toujours un peu le même, hein, Fedora, hein, qui reste comme une distribution qui est à l'avance sur tout le monde au niveau de la technologie. Ils utilisent toujours des choses très 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 à la mode, très en pointe. Il a toujours une veille technologique. Après, bon, c'est basé sur du paquet RPM. J'ai jamais été très fan des paquets RPM. Merci Mandriva. Et donc voilà, Fedora, c'est aussi une très bonne distribution. Le bleu, ça m'a toujours fait un peu vomir aussi. Mais
bon, t'es prends... difficile. Hein,
oui, je suis très difficile au niveau de distribution, mais bon, mais pourquoi pas. Alors on va passer à un autre vert justement, Monsieur Linux Mint.
Linux Mint. Moi j'aime beaucoup Linux Mint parce que ça marche bien quand même. Et puis c'est joli. Faut pas hésiter à l'utiliser. Le menu, c'est vraiment ce que je préfère. C'est le menu de Linux Mint. Les applications sont super bien rangées. On a accès à tout assez rapidement. Et puis il y a une petite zone de recherche qui permet, par exemple, si je tape dans ma petite zone de recherche Audacity. Eh bien, il va me proposer de lancer Audacity. Si Audacity n'est pas installé, il va me proposer d'installer Audacity ou de rechercher sur le web Audacity. Donc, c'est quand même plutôt bien fait. Il y a pas mal de versions de Linux Mint, notamment une version qui s'appelle LMDE, Linux Mint Debian Edition, qui est une version en rolling release, donc qui dispose de beaucoup plus de mises à jour. Je l'ai testé une fois, mais ça n'a pas super bien marché.
Non, ça n'a pas donc, marché.
Donc je suis revenu sur une Linux Mint 11. Ça marche du tonnerre.
Gnome de 32 hein, pour le
voilà.
KDE hein, aussi. Hein, il y a aussi la version.
Il y a aussi KDE. Une version KDE. Il y a une version XFCE également. Ouais. Il y a plusieurs versions au niveau des gestionnaires de fenêtres et des gestionnaires de bureaux. Voilà.
C'est fiable, hein, c'est très. J'ai jamais rencontré de problème, sauf pour Gnome de 32 où parfois on peut avoir des problèmes au niveau du chargement des applets, notamment les applets pour le Wi-Fi, pour le son et pour l'horloge. En tout cas, moi j'ai déjà rencontré ça. Mais en soi, ça reste une très bonne distribution pour celui qui veut s'initier à Linux. L'installation est très user-friendly puisqu'elle est basée sur le framework d'Ubuntu.
Oui, parce que Linux Mint est basé sur Ubuntu,
voilà,
qui est basé elle-même sur Debian.
Sauf que voilà, ce que parlait Alain tout à l'heure, la LMDE, la Linux Mint Debian Edition, elle court-circuite en fait le lien qu'il y a entre Mint, Ubuntu et Debian, voilà, puisqu'elle passe directement sur Debian. Donc n'est pas compatible avec totalement avec Ubuntu, puisque Debian, il y a une sorte de, il n'y a pas de rétroactivité si vous voulez. Ubuntu est compatible Debian, mais Debian n'est pas compatible Ubuntu. Voilà, c'est les paquets .deb sont mis sous Ubuntu, mais Ubuntu en rien les paquets de Ubuntu, en tout cas les paquets qui sont packagés pour Ubuntu ne sont compatibles, ou les sources d'applications ne sont compatibles pour pour Debian. Donc voilà, pareil pour Mint ou LMDE justement, alors rien à voir avec la mutuelle étudiante, ou LMDE justement est compatible Debian mais pas Ubuntu, voilà, selon ce principe de rétroactivité.
Tout à fait.
Et en première place, and now this is the first places of Ubuntu. Et forcément, la première place, c'est pour Ubuntu. Je pense qu'on s'est assez étalé de long en large, en travers et de tous les sens sur cette distribution. Je pense qu'il est inutile d'y revenir. Ce qu'il faut retenir de l'actualité des distributions, eh bien, nous avons plusieurs mises à jour majeures, voire plusieurs bêtas qui sont de sortie, en tout cas cette semaine. La grosse mise à jour qui va sortir cette semaine, je l'ai dit au tout début de l'émission, le 13 octobre, c'est la sortie d'Ubuntu. Tout simplement, voilà, Ubuntu qui passe en 11.10, Oneric Onslow.
Oslo, c'est un gros chat.
Voilà, merci pour la précision.
C'est parce un tigre hein, ou un léopard, oui, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est très beau, j'aimerais bien en avoir un dans mon salon en tout cas.
D'accord, donc il n'hésitera certainement pas à te manger ton PC et tes fils. Donc Ubuntu 11.10 sort le 13 octobre, hein, mise à jour majeure de la distribution phare Linux. Hein. Alors toujours pareil, donc d'après ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'interface Unity, hein. Mm-hmm. Je pense que je vais pas aller plus loin dans ce que je disais déjà. Ce qu'il faut savoir donc de
il y a Red Hat aussi
justement je n'avais pas fini sur Ubuntu.
Ah, autant pour moi.
Attention.
Excuse-moi.
Non, je voulais simplement dire pour finir qu'il y avait donc les variantes qui étaient toutes mises à jour également, donc Ubuntu pour KDE et du Ubuntu qui est plus un Ubuntu fait pour l'éducation. Ubuntu Studio,
et Ubuntu,
voilà,
et
Ubuntu, ouais. Et ouais. Ubuntu Studio qui est fait pour la production multimédia, donc MAO, non pas LFMAO, hein, mais MAO, bien entendu. Meet Ubuntu qui, lui, est plus est un Ubuntu avec XFCE, mais dont on a installé Meet TV, qui est un media center alternatif à XBMC, par exemple. Donc une version spéciale pour l'Ubuntu, pour LXDE. Kubuntu pour les gens qui sont en Corée, j'en connais pas. Runtu pour les gens qui sont en Russie. Sabili pour les gens qui sont pour les musulmans. Oui, il y a même une version musulmane. J'ai du mal à comprendre là pourquoi. Et Gobuntu pour alors là c'est un Ubuntu qui est fait que de versions de logiciels libres. Donc il n'y a pas un pet de logiciels pas libre à l'intérieur. Toutes ces versions sont par contre pas supportées officiellement par Canonical, donc mm-hmm. Attention quand vous les installez. En revanche, Kubuntu et Ubuntu, Xubuntu, Ubuntu Studio et Meetbuntu sont toutes elles supportées par Canonical, donc ça en fait quand même un sacré paquet. On devrait voir à l'intérieur de la 11.10, hein, Oneric Onslow, on devrait normalement voir l'apparition du noyau, le tout nouveau noyau Linux 3.0. D'ailleurs, elle doit être en 3.0.6 de mémoire. Et puis bon, évidemment une évolution de l'interface Unity pour Unity pour Ubuntu normal, pour Kubuntu ça doit être KDE 4.7. Bref, plein de petites choses mises à jour comme à chaque version, et la prochaine version ça sera précise Pangolin. Je laisse aux auditeurs le soin de rechercher qu'est-ce que ça veut dire. Toutes les infos sur wiki.ubuntu.com/release. Et ça sera la 12.04. Dans la suite des actualités DistroWatch, nous avons Fedora. On en parlait tout à l'heure.
Tout à fait. Qui sort une version 16 bêta pour l'instant. Et
qui sortira le 8 novembre 2011.
Oui, et Frédéric Béziès nous propose sur son blog, lui, un petit test de cette version 16.
Et ça donne.
Je mettrai le lien sur le site enfluxlibre.tuxfamily.org sous peu pour que vous puissiez aller voir ça.
Pareil, Fedora toujours à la pointe de la technologie, dans ses, en tout cas dans ce qu'on peut citer de ce qui est inclus dans Fedora 16, l'apparition d'un cloud, toujours une recherche avancée sur la virtualisation d'autres systèmes d'exploitation, le GRUB 2 qui est introduit dans Fedora 16, et desktop environment, pardon, les DE qui sont mis à jour, hein, donc KDE 4.7 et GNOME 3.1. 3.2 d'ailleurs sera délivré un peu plus tard. Donc voilà, toujours, toujours aller à la pointe de ce qui se, de ce qui se fait de mieux, même si effectivement Arch Linux.
Mais ceci aussi, dit, aussi bien, pour l'instant sur la bêta, on est sur un GNOME 3.1.
Voilà, 3.1 et le 3.2 sera activable par dépôt à l'intérieur de la distribution. On peut parler également d'OpenSUSE, hein, 2.1 bêta. La bêta, elle, elle doit arriver. Elle est déjà là, et au 13 octobre, donc la même date qu'Ubuntu 11.10, on aura la première release candidate, donc la RC1 de OpenSUSE 12.1, la version normale d'OpenSUSE, OpenSUSE, pardon, de 12.1 sortira le 10 novembre 2011. Et bien écoutez, hein, je pense que ça doit être pareil, hein, pour KDE, GNOME, hein, toujours les mêmes mises à jour, hein, KDE 4.7 et GNOME 3.1. Donc voilà, pareil, mettez à jour, si jamais vous avez OpenSUSE, mettez à jour votre système, OpenSUSE arrive. Et puis enfin, je terminerai, si j'ai la news effectivement devant moi, par un tout petit mot pour une distribution, en tout cas moi qui m'intéresse beaucoup et toujours beaucoup, c'est Magea, qui passe en alpha 1 pour la version 2 le 16 novembre, en alpha 2 le 14 décembre, et la version normale devrait arriver le 4 avril 2012. Donc,
c'est bien précis. Tout ça.
Voilà, c'est bien précis, et puis il faudra patienter un tout petit peu, sinon Frugalware, hein, pour celui qui aime Frugalware, donc j'ai jamais approché cette distribution, passe en pré-version 1.6.
Moi je l'essaye une fois.
Demain.
Même, parce que apparemment c'est vraiment pas mal, on en parle beaucoup sur le Planète Libre. Donc j'irai jeter un coup d'œil là-dessus.
Oui, je pense aussi quand j'aurai supprimé mon multiboot avec Windows.
Et il y a également Red Hat Enterprise Linux, RHEL, voilà, qui sort une version bêta 6.2. Donc on ne sait pas encore quand est-ce que sortira la version finale, mais pour l'instant, voilà, une de la bêta 6.2 qui vient d'arriver.
Voilà, tout à fait. Et je vous laisse... devinez mon petit coup de cœur, une petite distribution que j'ai découvert hier un peu par hasard en allant fureter sur le DistroWatch. Elle s'appelle, alors attention, ne vous moquez pas de moi parce que même moi déjà j'ai du mal à retenir mon sérieux, c'est Doudou Linux. Oui, oui, vous aviez Pupi Linux, et maintenant vous aviez Doudou Linux. Et le slogan, attention, l'ordi qu'il préfère. Moi je dis, c'est un putain de slogan. Doudou Linux est donc un système pour les enfants, un système d'exploitation pour les enfants, pour leur rendre l'utilisation de l'ordinateur plus simple et plus agréable. Donc il y a une dizaine d'applications qui conviennent pour les enfants de 2 ans. J'ai pas dit Facebook évidemment. Donc Doudou Linux est un environnement aussi facile à utiliser par exemple qu'une console de jeu. Et il n'y a pas de surveillance, voilà, ça leur évite aussi quelque part la surveillance de papa et de maman. Et il y a un contrôle parental, c'est très facile aussi à installer pour papa et maman. Donc tout est en, voilà, il y a un filtrage de contenu pour les sites peu recommandables. Donc papa et maman, ils ne peuvent pas faire des choses sur internet. Pour ça, ils prendront autre chose. Doudou Linux, c'est une base de Debian qui est peut-être pas si con que ça comme choix, puisque bon, on sait que Debian, comme je vous parlais, est très stable, très ultra stable. Donc ils n'auront pas un grand écran noir géant en disant votre système
kernel
a craché.
Voilà,
un kernel panique. Ils n'auront pas ça. Non. Enfin, j'espère pour vous en tout cas, parce que si jamais Debian fait ça, on est vraiment beaucoup dans la merde. Voilà, là, c'est Doudou Linux.
L'interface est très
très enfant,
très
enfantine.
Bonbon,
hein.
C'est
très très bonbon. C'est pas fait du tout pour à des gens qui ne connaissent rien Linux, je remettrai quand même pas ça. C'est vraiment pour les enfants. Ça existe en français, en espagnol, en anglais, en italien, en néerlandais, en russe, en syrien, en ce que vous voulez, en allemand. Voilà. Bon. Alors, en tout cas, c'est Doudou Linux. C'est à télécharger sur doudoulinux.org. org/web/français. Et eh bien écoutez, je crois que elle doit faire elle est très très peu elle prend pas beaucoup d'espace, hein, il me semble, de mémoire. Et donc voilà, en tout cas elle est Debian compatible, enfin en tout cas elle est Debian Red. Donc voilà, elle est sur une Debian, donc pas de risque que ça vous clash à la figure. Voilà, c'était le point DistroWatch. Donc un point que vous retrouvez toutes les deux semaines sur Enflux Libre. Et puis évidemment, tout ce que je vous ai dit, hein, tous les liens, ça sera retrouvé sur enflulibre.tuxplanet.com. org. Et puis nous allons finir cette émission, cette première émission un peu épuisante pour nous, cette première émission par les rendez-vous, puisque voilà, nous habitons Rennes et que nous sommes rennais, et qu'il est important aussi que nous fassions la promotion de ce qui se passe aussi aux alentours. Donc un seul rendez-vous. C'est pas très compliqué, on tenait quand même à le signaler parce que c'est un peu passé inaperçu chez nos confrères de linuxfr.org, les petits malins. Le hackerspace de Rennes fait sa rentrée. Déjà, on va peut-être un peu expliquer qu'est-ce que c'est un hackerspace, par exemple. Donc là, il va falloir que je recherche parce que j'ai pas pris les devants. J'ai pas pris les devants, donc... Et en plus, il me met en anglais, ça va peut-être pas le faire.
C'est wiki-rennes.fr.
Hein ?
Sur wiki-rennes.fr.
Ouais, mais je cherche en français et apparemment il y a.
Ouais, c'est en français là.
Wiki-rennes.fr ?
Wiki-rennes.fr. Ouais, c'est pas terrible en fait ce qu'il dit.
Du mal à lire/slash. Ah oui, d'accord. Et là, j'ai.
Ah, je connaissais pas.
Bah, y a pas de contenu. C'est pas grave. Je vais directement sur le site. Ça doit être une association, je pense. Hackerspace, voilà, Rennes, d'accord. Propos. Okay. Voilà, c'est ça. Donc, un hackerspace, hein, c'est un atelier collaboratif, hein, où des gens se rassemblent selon leurs compétences, hein, autour d'un projet. Donc ça peut être ludo-éducatif, artistique, donc de la musique, du graphisme ou des projets scientifiques, voilà. Donc par exemple, dans notre ville de Rennes, enfin en tout cas dans la ville de Rennes, il y a un projet qui propose de créer un Wi-Fi ouvert, un réseau Wi-Fi ouvert à Rennes, d'autres. Voilà, c'est vraiment un lieu pour un projet précis, pas précis, voilà, c'est, et avec des gens qui ont des multiples compétences, des gens qui vont coder, des gens qui vont s'atteler à l'aspect graphique, voilà, vraiment. Et justement, le hackerspace de Rennes fait sa rentrée, je pense que ça va être mardi, voilà, c'est mardi, le 11 octobre, donc c'est à partir de 19h30 au 48 boulevard Villebois-Marieul à Rennes. Et c'est à Rennes, donc vous pouvez voir d'ailleurs où est-ce que c'est, hein, sur le journal de linuxfr.org, il y a un lien vers OpenStreetMap. Et à 20h, il y aura à quelques mètres là un petit dîner au restaurant La Mimobile pour la présentation du Hackerspace et de l'association Hack Knowledge. Un tour de table de présentation pour dire qui l'on est. Des projets, donc justement ces fameux projets que je vous ai dit tout à l'heure, et bien écoutez, tout ce que vous pouvez parler précisément. Donc je pense que c'est ouvert à tout le monde, hein, inscrit, oui, pas inscrit, hein, c'est ouvert à tout le monde, hein, je pense que j'y ferai un tour.
Ouais, là, mardi, ce sera un tour de présentation et les visites des locaux.
Voilà, ouais, c'est ça. Je pense que j'y ferai peut-être un tour. En tout cas, voilà ce qui est à peu près... dans le coin pour l'instant. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose, mais on suit tout ça avec intérêt. Donc voilà pour les rendez-vous. Eh bien écoutez, je pense que nous sommes arrivés enfin au terme de notre marathon d'une heure et trente, quasiment plus de 30 minutes. Bien évidemment, sur vos lecteurs MP3, ça doit être un tout petit peu moins puisque l'émission est montée, hein, on ne vous cache rien dans flux libre. Donc là, ça va être la partie nia, donc c'est-à-dire violon à profusion. Je vous mettrai pas de musique, rassurez-vous. Donc déjà pour la fin de cette émission, bien écoutez, j'ai pas de mieux d'autre chose à faire que eh bien se présenter un tout petit peu. On va voilà savoir qui l'on est, hein, qui vous parle derrière le micro, qui vous balance des vannes depuis une heure et demie. Alain, présente-toi un peu, qui tu es, quelle est ta profession, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce qui te botte, dis-nous tout sur toi.
Alors,
pas trop non plus.
Tu veux tout savoir.
Oui, je veux tout savoir. Coquin. Je ne suis pas Facebook.
Donc, je m'appelle Alain Devarieux, je travaille dans l'informatique sur Rennes, je suis technicien réseau. Donc voilà, ça c'est pour le boulot. Je suis un passionné de l'informatique libre depuis environ 2002 ou 2003.
Passionné d'informatique tout court, je pense aussi.
Passionné d'informatique depuis 96 ou 97. Donc voilà pour ça. Le libre, donc ça fait quand même un petit moment que j'ai le nez dedans, on va dire, même si je suis pas un spécialiste. À part ça, à part l'informatique, je fais pas mal de sport et notamment du basket sur Rennes. Et puis, eh bien, un dimanche sur deux, je viens chez Ghislain pour enregistrer une émission de podcast. Voilà pour moi.
D'accord. Ouais, écoute, ça me va. Moi, en tant que je suis en train de bricoler mon micro, donc...
Oui, je vois ça. Ne le casse pas, s'il te
non,
plaît.
Non, je ne casse pas le micro. Donc moi, c'est Ghislain Larose. Aucune blague sur mon nom de famille, s'il vous plaît. J'en ai eu assez quand j'étais plus petit. Donc voilà, je suis... Bon, c'est pas très glorieux, mais je suis intérimaire. Hein. Je recherche évidemment, si jamais vous avez une petite place dans votre entreprise, je sais pas moi, une place en informatique, n'hésitez pas à me prendre. Et voilà, donc je suis intérimaire, passionné d'informatique depuis 1999, date à laquelle j'ai touché mon premier PC, d'informatique libre depuis 2006-2007, hein, dans ces eaux-là. Donc je bidouille. Beaucoup, énormément, trop à mon avis et à ceux autour de mon entourage, mais je bidouille tout le temps, donc je teste toujours ce qui est impossible à tester et pourtant je teste quand même. Donc voilà, passionné également de musique puisque j'en fais dans la musique électronique, gravite autour de moi principalement des DJ, des musiciens. Puisque je suis dans ce milieu. Je travaille, par exemple, pour ma musique, hein, je travaille autant avec des logiciels libres comme Ardour ou RoseGarden ou Hydrogen, hein, sur des distributions spécifiques Linux, que sous Windows, même si j'ai plus tendance à utiliser quand même des distributions Linux. Et voilà, j'ai mis en place ce projet donc en flux libre qui devait être donc à l'origine se nommer comme son émission principale d'origine, donc l'écho des gnous. Mais bon, on voulait quand même se démarquer, pas trop copier ce qui se faisait par rapport au départ. Et surtout, voilà, proposer un espace pour échanger sur tout ce qui fait, tout ce qui botte les gens sur Linux et dans le monde libre. Et voilà, on a cru à mon projet, en tout cas Alain a cru à mon projet et je le remercierai jamais assez pour ça. Donc voilà, en tout cas pour moi, maintenant vous nous connaissez mieux. On vous a donné au tout départ nos sites web respectifs, donc le site de l'émission enfuilibre.tuxfamily.org, l'identica de l'émission identica/enfuilibre. Vous ne nous retrouverez pas ni sur Facebook ni sur Twitter. On préfère éviter ces réseaux sociaux là, pas pour l'instant mais pour toujours, hein. Donc de toute façon on ne sera jamais sur Facebook, il n'y aura jamais de page d'émission Facebook. Vous comprendrez aisément pourquoi. Et cette émission donc a été montée un peu difficilement, donc pardon, alors au montage il peut y avoir des petites erreurs, donc pardon si d'avance il y a des blobs, des bruits bizarres derrière, hein, la route n'est pas très loin, donc forcément ça transparaît dans les micros.
Et puis c'est la première.
Voilà, c'est surtout la première.
Et donc, ça sera de mieux en mieux,
voilà.
Vous verrez.
On espère. Donc,
vous en redemanderez.
Voilà, tout à fait. Enfin, en tout cas, j'espère qu'ils en redemanderont, les petits loups derrière le micro. Et je suis en train de faire tomber mon micro. Donc cette émission a été enregistrée grâce au logiciel libre Audacity. Lui aussi sera mis sur le site internet puisqu'il est très fiable, très performant et surtout très puissant pour ce qu'on en fait. sur une distribution Linux, GNU Linux, Tango Studio, basée sur Ubuntu 10.04.3. Je vous invite également à aller voir Tango Studio, hein, ils ont également un Tux Family, hein, tangostudio.tuxfamily.org. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Qu'on a eu beaucoup, enfin en tout cas on a eu du plaisir à vous donner toutes ces infos et à parler pour la première fois dans le micro pour s'exprimer envers d'autres gens. Si jamais quelqu'un de Radio Campus Rennes nous écoute, qui nous excuse si nous ne sommes pas à l'antenne aujourd'hui, mais que nous sommes derrière nos PC chez nous, je pense que c'était beaucoup mieux pour nous. En tout cas, on est plus heureux dans ce système-là que dans le système de la radio. Dernier hommage pour Stinux, l'association Stinux qui est basée sur Lille et sa région, une grosse association de Linux, hein, et leur émission L'écho des Gnous, diffusée tous les dimanches soirs de 19h à 20h sur Radio Campus Lille 106.6. Je sais que ça leur fera très plaisir que je leur fasse un hommage. Merci beaucoup à eux, surtout à Thomas OCD qui m'a grandement aidé de par ses connaissances et de par ses échanges de mails, hein. Je me rappelle encore des mails le dimanche soir qu'on s'envoyait pour toutes mes interrogations. Voilà, Thomas, merci beaucoup. J'ai réussi à concrétiser enfin mon projet et j'espère très sincèrement avoir le plaisir de faire peut-être un duplex ou en tout cas un direct avec vous tous là-bas pour l'émission L'écho des Gnous. Ouais, voilà, ça serait très sympa. En tout cas, je l'espère et qu'on puisse un jour se rencontrer et pourquoi pas faire une émission de radio grandeur nature avec tout le monde. Ça serait super sympa. Bon, ça c'est un autre projet, mais on sait jamais, hein, je suis bien réussi à aller jusqu'ici en tout cas. Ça a été dur, mais c'est comme ça, c'est pas autrement. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toi, Alain. On se retrouve, de rien, surtout à beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec moi pendant une heure et demie. L'émission normalement durera effectivement ce temps-là. Hein. Là, c'est une heure et demie. Hein. Je ne fais pas de comblage de micro, mais normalement, ça sera une heure et demie si on arrive à bien boutiquer tout ça.
Je crois qu'on a débordé.
Je pense qu'on a largement débordé, effectivement. Déjà 1 minute 36. Et puis, je pense que c'est tout. Vous nous retrouvez donc sur Internet, hein, j'ai tout dit. Et dans 2 semaines, évidemment, pour une autre émission en flux libre. Je précise juste en tout dernier que le générique, c'est l'artiste se nomme Redscape. Vous ne vous étonnez pas, c'est effectivement c'est bien moi-même et le générique s'appelle Mars Planète. Voilà, je vous quitte sur ce générique et je vous dis à 2 semaines. Soyez au rendez-vous les petits loups et surtout portez-vous bien dans le libre, bien entendu. Salut, ciao, salut Alain.
Ça l'a fait.